Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le temps de travail a fortement diminué en France depuis les années 70 en raison du passage aux 35 heures mais aussi de l'explosion du temps partiel. Marie Viennot a étudié le dernier portrait social dressé par l'INSEE. Emmanuel Macron devant les maires de France, le président justifie la suppression de la taxe d'habitation. Il refuse d'interdire les listes communautaristes. Le reportage de Cyril Graziani. Le gouvernement annoncera demain des décisions fortes pour l'hôpital public. De l'argent supplémentaire, est-ce forcément la bonne solution pour améliorer notre système de santé? Nous poserons la question à notre invitée Agnès Verdier-Molinier, présidente de la fondation IFRAP, un cercle de réflexion libérale. Depuis 1975, le temps de travail a baissé en France, un constat dressé par l'INSEE dans son dernier portrait social du pays. Selon l'Institut National de la Statistique, cette réduction du temps de travail représente 350 heures en moins en 44 ans. Mais il s'agit là bien sûr d'une moyenne qui tient compte notamment du passage aux 35 heures. Dans le détail, Marie Viennot, l'INSEE constate un triplement du travail à temps partiel.
En 1975, les Français travaillaient en moyenne 1950 heures par année. En 2018, on est passé à 1609 heures, mais la baisse est moins élevée pour les cadres à temps complet qui n'ont gagné que 75 heures de travail en moins en 40 ans. Alors, à quoi a été utilisé ce temps non travaillé? Pour un quart, il a bénéficié aux soins apportés aux enfants, nous dit l'INSEE, et pour le reste, aux loisirs, télévision, jeux et internet en tête. Deux raisons expliquent la baisse du temps de travail sur 40 ans. La réduction du temps de travail et le développement du temps partiel, notamment féminin. Sylvie Leminez, responsable des études démographiques et sociales à l'INSEE.
La proportion de salariés qui travaillent à temps partiel a été multipliée par 3 depuis le milieu des années 1970. Ce temps partiel touche en priorité les femmes. 30% des femmes travaillent à temps partiel et la raison principale invoquée pour ce travail à temps partiel est qu'elles n'ont pas trouvé mieux.
Ce qu'on appelle le temps partiel subi. Il concerne donc surtout les femmes, mais aussi les moins de 25 ans, les étrangers et globalement les non-diplômés qui, pour un tiers, sont à temps partiel. Or, dans les années 70, ce sont les salariés les plus âgés qui travaillaient à temps partiel. Autre évolution sur 40 ans, le travail atypique s'est étendu et intensifié. En 1974, 12% des Français travaillaient occasionnellement le dimanche. Aujourd'hui, c'est 28%. Pour 12%, ce travail est régulier contre 3% en 1974. Même tendance pour le travail de nuit. 2% des Français travaillaient régulièrement de nuit dans les années 70 contre 6% aujourd'hui.
Marie Viennot, merci. Dans ce portrait social de l'INSEE, on apprend aussi que le niveau de vie de l'ensemble des Français a progressé en 2018, plus 0,7%. Mais cette hausse a davantage profité aux 10% des ménages les plus aisés qui ont vu leur niveau de vie croître de 1,2% l'an dernier. Emmanuel Macron a fait son retour devant le congrès de l'Association des maires de France aujourd'hui à Paris. Absent l'an dernier en raison de la crise des gilets jaunes, le président a cette fois pris la parole à la tribune à 4 mois des élections municipales. L'occasion pour lui de rejeter toute interdiction des listes dites communautaristes dominées par des islamistes. Plus généralement, Cyril Graziani, Emmanuel Macron a défendu sa politique face aux interrogations des maires.
Il faut dire que le président a été cueilli à froid par François Baroin et André Léniel qui ont remis sur la table la question de la taxe d'habitation, toujours pas digérée. Réponse ironique du chef de l'État.
Si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous et pas au gouvernement. Parce que c'est ce qui va vous arriver.
Alors Emmanuel Macron leur concède, il a tant appris des maires, eux en revanche n'ont pas appris grand-chose cet après-midi, si ce n'est que le chef de l'État demande à être jugé sur les actes.
Les actes, c'est une augmentation de la couverture numérique du territoire inédite. Les actes, c'est l'ouverture des 460 premiers France Service en janvier 2020. 2000 nouveaux cafés dans nos petites villes d'ici quelques mois dans le cadre de l'agenda rural. Les actes.
Ah, il égrène ainsi toutes ces réformes pour montrer qu'une partie de son action est en direction des élus locaux. Mais surtout, le chef de l'État a misé sur le régalien, notamment un sujet attendu, les listes communautaires aux municipales prochaines. Et sa position est claire.
Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République ces débats. Qui peut penser d'ailleurs que de telles listes se présenteront à visage découvert, avec spontanéité et clarté? Non. Si les choses étaient si simples, nous n'aurions pas tant de difficultés. Ceux qui développent un projet communautariste, cet islam politique que j'évoquais, un projet de division de la nation en détournant une religion de ses fondements, très souvent se cachent, se dissimulent. C'est là toute la difficulté.
Réponse en forme de fin de non-recevoir à Bruno Retailleau qui a déposé une proposition de loi en ce sens. Emmanuel Macron a renvoyé aux prochaines semaines ses réponses sur le communautarisme ainsi que sur tous les autres sujets avant de s'offrir une bonne demi-heure d'échange avec les maires en bas de l'estrade.
Cyril Graziani depuis le congrès des maires de France, porte de Versailles à Paris. Autre chantier important pour le gouvernement, l'hôpital public après la mobilisation de milliers de personnels soignants la semaine dernière. Une colère juste et légitime avait estimé Emmanuel Macron, qui avait promis dans la foulée des décisions fortes pour répondre aux attentes des grévistes. Ces décisions fortes seront annoncées demain à l'issue du Conseil des ministres. Elles se traduiront sans doute par des moyens financiers supplémentaires pour l'hôpital public. On en parle avec l'invité de ce journal, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, un cercle de réflexion libérale. Bonsoir.
Bonsoir.
Agnès Verdier-Molinier, l'hôpital public français a-t-il besoin d'investissements supplémentaires pour remplir ses missions?
Ce qui apparaît dans nos travaux de la Fondation IFRAP, c'est qu'on dépense déjà énormément par rapport à nos voisins, notamment par rapport à l'Allemagne. On dépense 11 milliards d'euros de plus dans l'hôpital. Il nous apparaît qu'il y a un problème d'organisation, d'utilisation des moyens. La France a énormément misé sur les dépenses hospitalières et beaucoup moins sur les dépenses de médecine de ville. Alors, que s'est-il passé ces dernières années? Petit à petit, la médecine de ville, finalement, a perdu de sa place dans notre système, et tout le monde s'est retrouvé à agrandir les files d'attente aux urgences. Et c'est ce qui fait que l'hôpital se retrouve dans une situation catastrophique, c'est que finalement, on a déstabilisé l'organisation des soins entre médecine de ville et hôpital public, sans s'en rendre compte, et que ce tout hospitalier que nous avons en termes de vision de santé est en fait une impasse, et personne ne le dit. Et les Allemands qui dépensent 11 milliards de moins dans l'hospitalier par rapport à la France, ils dépensent 6 milliards de plus en médecine de ville. Donc ils ont un système qui est beaucoup plus équilibré que le nôtre et qui fait que tout le monde ne va pas engorger l'hôpital par les urgences. Il y a aussi énormément de petites consultations d'urgence au niveau de la médecine de ville, mais ça demande aussi d'organiser mieux l'organisation des soins en ville avec des gardes, avec des parcours de soins beaucoup mieux fléchés. C'est tout ça dont il faudrait parler et on en parle très peu.
Mais vous dites que la France dépense plus pour la santé de ses habitants que d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni. Dans l'absolu, c'est plutôt une bonne chose.
La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression que c'est en rajoutant des milliards sur l'hôpital qu'on va résoudre les problèmes, alors qu'en réalité, on ne va pas les résoudre. La difficulté que nous avons aussi en France, c'est que nous traitons l'hôpital comme si c'était une administration comme une autre, alors que l'hôpital n'est pas une administration comme une autre. L'hôpital est tout à fait spécifique et ça demande une organisation différente. Les pays qui nous entourent et qui ont réformé leurs hôpitaux publics, ils embauchent non pas sous statut mais sous contrat. Vous avez vu qu'on a réformé la SNCF pour lui permettre de rentrer dans le 21e siècle. Il n'y aura plus bientôt d'embauche sous statut et ça a paru normal à tout le monde. Il faudrait faire exactement la même chose sur l'hôpital. Arrêter les embauches sous statut qui font qu'en réalité les grilles de rémunération sont hyper statiques et qu'une infirmière qui va être à Paris ou dans le Val d'Oise va être payée sur la même grille de rémunération alors que c'est beaucoup plus cher de se loger à Paris. Alors aussi que certains agents sont énormément disponibles pour servir l'intérêt général, que d'autres le sont moins, et que finalement, ils sont rémunérés de la même manière.
Donc, mais on ne peut pas établir une hiérarchie entre les personnels soignants, on ne peut pas dire que telle infirmière est plus performante que telle autre, c'est compliqué de tenir ce discours.
En réalité, évaluer les personnels selon leurs mérites individuels et réels serait beaucoup plus valorisant et en réalité permettrait de faire beaucoup mieux avancer l'hôpital. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un absentéisme très fort, on a des personnels démotivés, alors même qu'ils sont dans ce type de statut qui est homogène pour tout le monde, mais qui à la fin ne fait pas beaucoup d'heureux. Donc c'est changer ce système d'évaluation, changer la façon d'organiser, de manager l'hôpital, ne manager non plus comme une administration, mais comme le font d'ailleurs les hôpitaux non lucratifs, privés non lucratifs, qui aujourd'hui fonctionnent beaucoup mieux en France que les hôpitaux publics. Il y a beaucoup à s'inspirer aussi de notre propre modèle. Les hôpitaux privés et privés non lucratifs arrivent beaucoup mieux à être beaucoup mieux gérés qu'à l'hôpital.
Mais l'hôpital public, ça reste malgré tout un service public. On ne peut pas comparer ça à n'importe quelle autre administration ou n'importe quel autre secteur.
Alors c'est bien le problème, c'est que l'hôpital public est géré comme une administration comme une autre, un peu comme serait gérée une collectivité locale ou une administration centrale, avec énormément de réglementations, avec 200 circulaires par an qui tombent sur les directeurs d'hôpitaux qui sont obligés de faire avec cette procédure administrative qui est hyper lourde. Donc effectivement, vous avez raison, l'hôpital n'est pas une administration comme les autres, et l'hôpital devrait sortir de ce carcan administratif. Alors il y a des solutions pour le faire. C'est gérer beaucoup plus au niveau local l'hôpital, au niveau régional, comme le font beaucoup d'autres pays. C'est embaucher non plus sous statut, mais sous contrat. Hein. Donc là, il y aurait une possibilité justement d'avoir de la flexibilité pour que les agents soient plus récompensés quand ils sont plus au service des malades. Et donc tout cela, ça demande aussi de revoir la médecine de ville, comme je le disais tout à l'heure, avec un système de garde bien rémunérés pour qu'une grosse partie des urgences soient désengorgées. Et ça, ce sont des décisions qu'il faut prendre au niveau politique, évidemment. Et ce ne sont pas simplement des milliards dont il faudrait arroser le système tel qu'il est, parce que ça ne fonctionnera pas.
Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. 4 syndicats de Radio France appellent à la grève à partir de lundi. La CGT, la CFDT, le SNJ et Sud entendent dénoncer le plan de départ volontaire de la direction. 299 postes doivent être supprimés à Radio France d'ici 2022. En Iran, cela fait 4 jours maintenant que des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la hausse des prix de l'essence et la répression sanglante exercée par le régime islamique est impitoyable. L'ONU et Amnesty International parlent de dizaines de victimes. On fait le point avec Christian Chéneau.
Amnesty International avance un bilan très lourd. Au moins 106 manifestants dans 21 villes ont été tués selon des informations crédibles recueillies par l'ONG. Cette évaluation pourrait même dépasser les 200 morts. Comme l'ONU, Amnesty dénonce l'utilisation de balles réelles pour disperser les manifestants, mais aussi la présence de snipers sur des toits d'immeubles qui tirent sur la foule. De leur côté, les autorités iraniennes minimisent les troubles. La situation est revenue à la normale, a même déclaré un porte-parole de l'institution judiciaire. Mais pas question pour autant de rétablir Internet, qui ne sera rouvert que lorsqu'il ne sera plus utilisé à mauvais escient, ont indiqué les autorités iraniennes. Ces dernières ont par ailleurs appelé la population à dénoncer les séditieux qui troublent l'ordre public. De leur côté, les gardiens de la révolution, colonne vertébrale de l'appareil sécuritaire iranien, ont d'ores et déjà averti qu'ils pourraient prendre des mesures décisives si d'aventure le mouvement de contestation se poursuivait.
Christian Chéneau, merci. C'est un tournant dans le feuilleton des ennuis judiciaires de Julian Assange. La Suède abandonne officiellement les poursuites pour viol contre le fondateur de Wikileaks. Une femme accuse Assange de l'avoir violé en 2010, mais le parquet suédois a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour un procès. Pour autant, Julian Assange n'est pas prêt de sortir de sa prison londonienne, car la justice américaine le réclame, Marie-Pierre Véraud.
Julian Assange reste sous le coup d'une demande d'extradition par les États-Unis pour espionnage. Il est actuellement incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh dans le sud de Londres et son état de santé inquiète ses proches. Lors d'une audience le mois dernier, le fondateur de Wikileaks est apparu confus et désorienté. Le rapporteur de l'ONU sur la torture estime que sa vie est en danger. Un cri d'alarme relayé par son père John Shipton, qui lui a récemment rendu visite en détention et était interrogé par RT.
Comme vous pouvez l'imaginer, il est profondément déprimé et traumatisé par cette campagne de persécution incessante et qui s'intensifie depuis maintenant 9 ans.
Une nouvelle audience concernant son extradition vers les États-Unis est prévue en février prochain. Julian Assange refuse la procédure. Il met en avant son travail de journaliste qui a, dit-il, protégé beaucoup de gens. En 2010, il avait révélé plus de 700 000 documents concernant les activités américaines en Irak et en Afghanistan. Les journaux associés à sa plateforme ont depuis condamné la publication de télégrammes non expurgés qui peuvent mettre certaines sources en danger. Et l'image de Julian Assange s'est au fil des enquêtes quelque peu brouillé.
Marie-Pierre Véraud, merci. On termine ce journal avec la météo. Demain, de la grisaille au nord de la Loire. Ces brouillards devraient se dissiper à la mi-journée, sauf sur le nord-est où ils seront tenaces par endroits. Au sud, un ciel variable et parfois orageux près des frontières italiennes. Les températures minimales seront fraîches, de moins 3 à 2 degrés en général, de 5 à 12 sur le pourtour méditerranéen. Pour les maximales, comptez de 5 à 17 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.